L'être Sainte Vierge Marie parle à son fils en se faisant l'interprète du reproche rigoureux qu'aurait dû formuler Saint Joseph à notre Seigneur. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Eh bien, parce que la Sainte Famille n'est pas une famille comme les autres et que Saint Joseph, son rôle est justement de. Ce n'était pas son rôle. Néanmoins, dans l'ordre des choses tel qu'il est communément pour les chrétiens, il se trouve que le mari, le père, en l'occurrence, est l'interprète de la loi. C'est-à-dire que c'est lui qui est le gardien de la loi, c'est pour cela qu'il est le chef, il est le gardien de la loi, de telle sorte qu'il est l'interprète de la loi, il est celui qui enseigne à sa famille comment on doit obéir à la loi de Dieu, et c'est lui aussi qui, à l'occasion, sanctionne, d'une manière ou d'une autre, selon les recommandations de l'Écriture, qui sanctionne les transgressions de la loi. Il le fait avec sagesse, mais c'est à lui de le faire. La mère aussi, dans son rôle d'aide et de seconde du père, elle est aussi celle qui enseigne à la suite du père et qui sanctionne aussi selon son mode propre. Maintenant, il se trouve que si Saint Joseph, dans la Sainte Famille, garde le silence vis-à-vis du Christ, c'est parce que, d'une certaine manière, le seul reproche que le Christ peut s'entendre formuler, et encore c'est un reproche très relatif qui n'est pas un reproche qui est, comme nous l'avons expliqué, qui est relatif à l'ordre des choses en soi et non pas à ce que le Christ a fait, il ne peut s'entendre reprocher quelque chose que par la très sainte Vierge Marie, qui est, en tant que mère, l'interprète de la miséricorde. C'est-à-dire que la mère est la représentante de la miséricorde et le Père est le représentant de la rigueur. Et la rigueur et la miséricorde allant de pair et étant articulés l'un par rapport à l'autre font l'équilibre. L'équilibre qui fait que l'univers n'est pas encore tout à fait à plat. Dans la famille chrétienne, il faut que le Père commence par être lui-même en quelque sorte l'incarnation de la loi. Quand je dis incarnation, c'est une façon métaphorique, bien sûr. Il faut qu'il soit lui-même le gardien de la loi, de telle sorte qu'il n'ait, comme Saint Joseph, pas besoin de parler. Alors, ça ne veut pas dire que le Père ne doit pas parler, hein, mais c'est-à-dire que le Père doit être si rigoureusement l'incarnation de la loi, en s'y conformant lui-même, en étant en tout un modèle, et tout de suite, et pas dans 100 ans, qu'il n'ait pas forcément besoin de parler pour être compris. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas parler, évidemment, je ne dis pas du tout le contraire. Mais il faut qu'il n'ait pas à se contenter de parler sans rien faire. Vous voyez, un père qui dit faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais, doit être obéi. Parce qu'effectivement, en tant que père, il a l'autorité pour défendre à ses enfants de transgresser la loi. La seule chose, évidemment, s'il dit ne me regardez pas, ne faites pas ce que je fais, malheureusement, il s'affaiblit. Je ne dis pas qu'il se prive de sa légitimité, non. Et les enfants doivent bien prendre conscience que si leur père leur dit de faire bien et que lui-même ne fait pas bien, ils doivent faire bien. Le père ne peut pas. L'autorité du père n'est pas subjective. Il n'est pas père ou il n'est pas l'enseignant dans la mesure où lui-même met en pratique ce qu'il dit. Parce que ce n'est pas comme cela que les choses fonctionnent. Néanmoins, s'il met en pratique ce qu'il dit, évidemment, il cède lui-même. Alors, parlons un petit peu maintenant de la hiérarchisation de l'ordre des rôles dans la hiérarchie. Le père commence par se garder lui-même. Quand je dis commence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se garde lui-même. C'est pour cela que les jeunes gens qui se destinent au mariage ne doivent pas attendre d'avoir 36 000 enfants pour commencer à réfléchir à comment être père. Ils doivent avoir la maîtrise d'eux-mêmes. Ils doivent se préparer à rentrer dans l'état de mariage en étant autre chose que des sortes de gamins mentaux qui poursuivent leur propre concupiscence. Vous voyez, il faut qu'ils aient cette gravité, ce sérieux chrétien qui fait qu'ils vont pouvoir être pères. D'ailleurs, quelqu'un qui se préparerait de cette manière-là pourrait très bien aussi être utilisé par Dieu dans d'autres états, par l'état religieux, l'état clérical. Pourquoi pas? Parce que, de toute façon, c'est une sorte de façonnement mental qui sert à tout. La crainte de Dieu sert à tout, la piété sert à tout. Donc, il doit commencer par se garder lui-même. Là, je suis ce que Léon XIII écrit. l'enseignement de Léon XIII, il doit de même regarder en Saint Joseph la norme, voire en Saint Joseph, la norme par excellence de la vigilance et de la providence paternelle. Vigilance et providence, voilà les deux mots que le pape assigne à la fonction paternelle. Vigilance et providence. Vigilance tout d'abord. Il protège son foyer des atteintes de la mondanité. Il protège son foyer aussi des atteintes des prédateurs et toutes sortes de tous les gens qui voudraient lui faire du mal, bien entendu. Mais ce n'est pas simplement quelqu'un qui protège des mauvaises gens. Sinon, un gendarme suffirait. Il l'est beaucoup plus. Il est celui qui protège son foyer des atteintes de la modernité. Oui, de la mondanité. Oui, j'ai dit la modernité aussi, c'est un lapsus, c'est évident que c'est la mondanité aujourd'hui se manifeste spécialement par la mondanité, la modernité, etc. Mais aussi, il y a une mondanité chrétienne. Le Père protège donc, avec une grande vigilance, son foyer des atteintes de la modernité et de la mondanité. C'est-à-dire qu'il va non pas se laisser influencer par les modes ou même les nécessités, les impératifs du monde, il va faire tout son possible pour se comporter, et surtout aujourd'hui où certaines choses sont parfois presque impossibles à éviter, il va se comporter comme le médiateur, comme en quelque sorte l'agneau de Dieu qui prend sur lui-même le péché du monde. Qu'est-ce que ça signifie ? Ben, ça veut dire par exemple, si il est absolument nécessaire d'avoir, par exemple, recours à l'Internet, je sais pas, pour payer ses impôts, pour communiquer d'une façon qui est correcte et non pas et pas pour se laisser aller à la curiosité ou à l'intempérance. Enfin, mettons que ça soit nécessaire, il faut que ça soit le Père qui le maîtrise. Vous voyez, il ne doit pas y avoir l'Internet à la portée de tout le monde, et lorsque les enfants se vautrent dessus sans aucun contrôle, on leur dit « Ah, mais quand même, attention, c'est mauvais, vous savez, Bill Gates défend à ses enfants. » Et alors, s'il défend à ses enfants, défendez-le aux vôtres. C'est extraordinaire, cette lâcheté des pères en général, et j'espère pas chrétiens, je crois que les pères chrétiens ne sont pas dans cette situation-là, mais qui consiste à laisser tout faire et à se plaindre aux enfants comme si les enfants n'étaient pas des enfants, comme si les enfants étaient des adultes capables de prendre de faire des choix et de prendre des responsabilités. Il y a quelque chose de mauvais dans la modernité, le père doit être le filtre, la porte d'airain qui empêche cette chose d'entrer dans son foyer. Et même s'il doit en souffrir, même s'il doit se creuser les méninges pour savoir comment faire, il doit le faire avec l'aide de Dieu. C'est pour cela qu'il doit invoquer Saint Joseph et demander à Dieu son aide. Il doit donc être vigilant. La vigilance paternelle est la première chose que Léon XIII assigne au père de famille. La vigilance contre les atteintes de la mondanité et de la modernité. Il est le vicaire du Christ, il est le lieutenant du Christ. Alors n'allez pas dire « Oh là là, c'est trop donné au père de famille, c'est quelque chose qui appartient au pape ». Le pape est le vicaire du Christ par excellence. Les évêques sont les vicaires du Christ relativement au peuple qui leur sont confiés. Les rois sont les lieutenants du Christ. Lieutenant et vicaire, c'est absolument la même chose, étymologiquement parlant. Évidemment, ce sont des rôles différents, ce sont des grades différents, mais c'est un principe qui est le même. Ce que le pape, si j'ose dire, est pour l'Église, le père est pour la famille. Ce que l'évêque est au diocèse, le père est pour sa famille. Ce que le roi est pour son royaume, le père est pour sa famille. Vous voyez ? Regardez la dignité de l'office paternel. Le père se compare au pape, aux évêques, au roi. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui doit encourager les pères à être vigilants et à ne pas laisser la mondanité et la modernité faire des incursions regrettables dans leur foyer. C'est lui aussi qui veille sur son épouse, donc pour ne pas la laisser être exposée à des dangers. Ça dépend des contextes, mais il veille aussi sur elle. Il n'a pas une relation vis-à-vis de son épouse où il se contente en quelque sorte de vérifier un petit peu ce qu'elle fait et de valider plus ou moins. C'est lui qui, tout en lui laissant l'espace vital dont elle a absolument besoin, et sans y rentrer, évidemment, c'est lui qui veille à ce qu'elle ne soit pas dans une situation où elle pourrait en pâtir, c'est-à-dire elle, lui ou le foyer. Vous voyez, un père qui laisserait, un époux qui laisserait sa femme être constamment sur l'Internet, même si c'est pour regarder des choses qui sont bonnes, soi-disant, etc., prend le grand danger de faire entrer un cheval, de la transformer, de la laisser se transformer en cheval de Troie pour toutes sortes de choses subversives. Et les choses subversives les plus graves ne sont pas forcément les plus grossières. Donc, vous voyez, mais enfin, c'est pour ça qu'il doit lui-même être le bon exemple. Il ne doit pas être constamment sur l'Internet en train de regarder toutes sortes de stupidités. Il doit être le garant des bonnes mœurs catholiques. C'est pour cela que le père doit veiller aussi sur ses enfants, il doit veiller sur ses fils, afin qu'ils ne soient pas, ils ne se laissent pas efféminer par le monde, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas forcément toujours par les mêmes moyens. Et il doit veiller aussi sur ses filles, de telle sorte qu'elles ne soient pas happées par le monde sous prétexte qu'aujourd'hui on ne peut plus, etc. Aujourd'hui on ne veut plus, c'est ça le problème. On peut toujours. On peut toujours. Pourquoi? Parce que l'ordre des choses est immuable, indestructible. Quand bien même tous les législateurs de la Terre légiférerait contre l'ordre des choses demeure. Pourquoi? Parce que l'ordre des choses est in divinis. Il est en Dieu, il est garanti par Dieu, il est fondé par Dieu, et il a pour fin et pour raison d'être Dieu. Donc ce n'est pas, ne dites jamais aujourd'hui on ne peut plus, dites aujourd'hui on ne veut plus, et moi je veux avec l'aide de Dieu. Il doit veiller sur ses filles afin qu'elles ne se laissent pas séduire par toutes sortes de gens qui les corrompraient, mais aussi pour qu'elles ne se laissent pas séduire par toutes sortes de perspectives que, notamment dans l'antiféminisme, on leur ouvre, on leur propose, et de telle sorte qu'elles se retrouvent conférencières, que sais-je, ou d'autres choses, je ne dis rien par charité, mais un père qui laisserait sa fille, par exemple, faire des vidéos sur l'Internet, est un père qui se déshonore, qui déshonore sa fille, et qui marche sur la tête. Vous voyez? Je le dis parce que c'est la plaie de l'époque, il n'y en a pas beaucoup évidemment, mais il y en a beaucoup dans le monde. Il se déshonore complètement. Pourquoi? Parce que, il est trop long pour expliquer, je l'expliquerai une autre fois, et je l'ai déjà fait par écrit, ou comme vous le savez, il y a un ordre des choses, et cet ordre des choses ne peut pas être contourné impunément. J'aimerais bien demander à un père de famille dont la fille fait toutes sortes de chroniques sur l'Internet, comment il va marier et à qui il va marier sa fille. Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui. Vous allez voir que faire des vidéos, c'est presque aussi grave que faire autre chose. Donc, la vigilance est la première des choses que Léon XIII assigne au père de famille. Et ensuite, la providence. Il doit subvenir aux besoins de sa famille. Un père de famille, et parfois dans une situation de très grande précarité, surtout aujourd'hui, enfin ça a toujours été le cas, mais enfin disons surtout aujourd'hui, il doit faire très attention de ne pas céder à la facilité et de faire que, disons, de pousser sa femme à aller travailler sous prétexte que le foyer n'a pas assez d'argent. Alors je sais très bien que les foyers souvent n'ont pas assez d'argent, mais vivez d'une façon catholique, vous verrez qu'on s'en sort beaucoup mieux. Il y a des gens aujourd'hui qui font des grands discours sur la virilité, sur la paternité, etc., qui sont des pères au foyer dont seule la femme travaille et qui sont revendiqués tels quels. Bon, certes, ils ne se disent pas catholiques, mais enfin quand même, quand même, quand même. Il y a, je ne jette pas du tout la pierre parce que par d'autres côtés, ils peuvent avoir l'air tout à fait sympathiques et ils le sont, mais il y a quelque chose de grotesque. Soyez, même d'une façon qui est extrêmement pénible, extrêmement modeste, mais soyez la providence de votre famille. Ne contraignez pas votre épouse à devenir la providence de la famille. Trop souvent, elle doit, malheureusement, parce qu'elle est veuve, parce que, etc., d'une manière ou d'une autre, la femme moderne doit se retrouve dans une situation pénible. Que l'époux chrétien, au moins dans le microcosme de sa famille, soit dans ce monde, la providence de sa famille. L'honneur de l'homme tient au fait qu'il est la providence de sa famille. Il y a des gens des pères de famille qui s'imaginent que sais-je, ils doivent couponner, ils doivent être d'une manière ou d'une autre extrêmement présents, afin, etc. Bon, effectivement, ils doivent être présents, évidemment. Ils doivent être présents en tant que porte-parole de la loi de Dieu. Ils doivent être présents par leur affection, par leur charité, nous y viendrons dans un instant, mais ils doivent être aussi présents là où il faut pour être véritablement ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire la providence de leur famille. Donc s'il vous faut vous déplacer, s'il vous faut aller loin, s'il vous faut faire des choses qui vous rendent quelque peu distant de votre famille, mais pour le bien de votre famille, faites-le. Voyez? Ayez un métier honnête et sans contradiction avec votre autorité. C'est-à-dire que, là je donnerai un exemple très précis, si vous voulez que votre femme vous soit soumise, n'ayez pas un métier où vous avez des collaboratrices féminines et que vous n'êtes pas constamment en train d'être avec des femmes libérées. Vous voyez, il y en a. Il y a des gens qui sont des petits tyrans patriarcaux chez eux, et ça c'est une chose très mauvaise, qui veulent que leur femme leur soit soumise d'une façon qui dépasse le cadre de la religion catholique, et qui par ailleurs sont constamment en train d'être avec des collaboratrices, des conseillers, etc. Alors je ne pense pas du tout à mal, c'est même pas ça le problème. C'est plutôt le fait qu'ils sont avec des femmes finalement libérées, féministes, tout ce que vous voulez, et ils veulent avoir une femme catholique à la maison. Ayez un métier où vous n'avez pas besoin, structurellement du moins, parce que tout est dans tout, bien sûr, malheureusement, aujourd'hui, mais où vous n'avez pas besoin d'être en lien, professionnellement proche, avec des femmes qui n'ont pas la modestie de votre épouse. N'ayez pas de femmes dans les alentours immédiats de votre profession, et c'est une chose importante. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, malheureusement, être confronté à ce genre de personnes, mais il ne faut pas que ça soit, par exemple, des gens qui sont des collaboratrices, des gens qui sont des piliers dans notre métier. Vous voyez, si vous êtes gendarme et puis que vous avez à mettre une contravention ou mettre un PV à une bonne femme féministe, bon, évidemment, ça n'a strictement rien à voir. Mais, vous voyez, si vous êtes gendarme et puis que vous avez des gendarmettes, vous voyez, c'est très délicat. Alors, vous allez dire, mais alors, on ne peut plus faire métier, tous les métiers sont féminisés. Réfléchissez bien et concertons-nous. Ensuite, les mères. Les mères, nous avons parlé des pères, parlons un peu des mères maintenant. Léon XIII dit que les mères doivent regarder dans la très sainte Vierge Marie le modèle parfait d'amour, de modestie, d'esprit de soumission et de foi parfaite. Il y aurait tellement de choses merveilleuses à dire à propos des mères. Malheureusement, il faut un peu abréger. C'est un sermon qui est déjà très long. Mais c'est très important de le dire. Et puis, si nous ne prenons pas le dimanche matin le temps de le dire, qui le dira, quand le dirons-nous? Les distances sont tellement grandes. Donc, les mères. Léon XIII veut qu'elles voient dans la très sainte Vierge Marie le modèle parfait, donc, je l'ai dit, d'amour, de modestie, d'esprit de soumission et de foi parfaite. Elles doivent donc, selon le commandement de saint Paul, aimer leur mari et leurs enfants. Pour l'amour de Dieu, ça ne veut pas dire que leur instinct maternel ne les aide pas, mais disons que ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut toujours compter. Il y a parfois des situations pénibles, il y a des toutes sortes de situations. C'est aussi un acte surnaturel. Vous voyez, c'est une chose que la nature aide, mais il faut que ça soit surnaturel. Aimer leur mari et leurs enfants. La modestie doit être, leur modestie, qui est la modestie de la Sainte Vierge, doit être une modestie, bien sûr vestimentaire, mais aussi morale. C'est-à-dire qu'une femme qui refuserait de s'habiller d'une façon provocante, etc., mais qui serait par ailleurs tout le temps sur l'Internet en train de faire de pérorer contre le féminisme, ne se comporte pas du tout d'une façon modeste. Il y aurait bien des choses à dire, mais nous préférons passer pour le moment. Il est immodeste pour la femme de sortir de son rang. Il est immodeste pour la femme d'enseigner. En public, il est d'enseigner en public, hein, pas, je ne parle pas des enfants ou de ses autres femmes. Il est immodeste d'enseigner en public. Il est immodeste de parler dans le cadre de l'Église. Il est immodeste de se montrer en dehors de la subjection à son époux. C'est-à-dire que vous ne me ferez pas croire qu'il peut y avoir des foyers où la hiérarchie règne d'une façon véritable lorsque la femme va faire toutes sortes de conférences, lorsque la femme est journaliste, qu'elle va enquêter, que sais-je. Vous allez dire, ça ne court pas les rues. Ça tombe bien, personne n'est visé. Ça ne se sentira visé. Mais c'est une chose, vous voyez, quand une femme catholique est en même temps commissaire dans quelques institutions, que sais-je, elle va être soumise à son mari, puis ensuite elle va aller faire des conférences, des rapports, elle va avoir des bons hommes soumis à elle. Une femme catholique va être officier dans l'armée, ou dans la gendarmerie, ou dans la police, et elle va avoir donc des hommes sous elle, qu'elle va commander, et puis ensuite elle va être soumise à son mari. Alors vous allez dire, mais ça se peut. Moi je dis, c'est immodeste. C'est immodeste et cela ne se doit pas. Car c'est une abomination pour l'âme, pour la femme, de porter des vêtements, c'est-à-dire les armes de l'homme, comme dit le Deutéronome. Donc, il y a bien des choses, vous voyez, qui sont immodestes et auxquelles on ne pense pas. L'immodestie ne consiste pas simplement à se promener d'une façon impudique. Ça, même les mondaines, la plupart du temps, hésitent. Elles n'en sont pas plus modestes pour autant. L'immodestie pour la femme consiste à sortir de son rang de quelque façon que ce soit, de quelque manière et dans quelque contexte que ce soit. D'où il faut que la femme, l'épouse chrétienne, donc celle qui est revêtue de cette dignité, soit comme la Sainte Vierge l'était, soumise à son mari comme la Sainte Vierge était soumise à Saint Joseph, et qu'elle soit de même soumise aux autorités de l'Église. Il ne faut pas qu'elle soit soumise aux autorités de l'Église et qu'elle invoque celle-ci contre son mari. Il ne faut pas non plus qu'elle soit soumise à son mari contre l'autorité de l'Église, vous voyez, des prêtres ou des évêques. Il ne faut pas dire, oui, ah ben, je ne peux pas m'habiller modestement, mon mari veut que je sois immodeste. Ce sont des questions très délicates. Il ne faudrait pas que la femme veuille à tout prix être modeste contre son mari. Ça serait une forme de rébellion. Toutes ces choses-là, d'ailleurs, se règlent au cas par cas. Cela ne se règle pas dans un sermon ou dans un article, etc. Ça se règle face à son confesseur, dans la mesure où le confesseur est bien informé. Maintenant, il se trouve que, vous voyez, la femme doit être soumise à son mari, soumise aux autorités légitimes de l'Église, de telle sorte qu'elle puisse se sanctifier, car c'est pour cela qu'elle est soumise. Vous voyez que Dieu lui demande d'être soumise. Il ne lui demande pas d'être soumise pour d'autres raisons que celles-ci, et ce sont des raisons suffisantes pour qu'elle le soit en tout temps, toujours, sans discontinuer jamais. C'est le seul moyen de ne pas errer, et c'est aussi le seul moyen, mine de rien, d'être efficacement protégée contre le monde et aussi contre elle-même. Parce que la femme est une chrétienne comme les autres, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'elle doit lutter contre le diable, contre le monde, mais aussi contre l'amour propre. Et puis les enfants ont, dit Léon XIII, dans Notre Seigneur, un modèle de soumission parfaite à leurs parents. Elle doit se manifester par l'obéissance, de telle sorte que Notre Seigneur, après avoir expliqué prophétiquement, quoique d'une façon incompréhensible pour ses parents sur le moment, la raison et la légitimité de son comportement, l'Évangile nous dit qu'il vint à Nazareth, il descendit avec eux et vint à Nazareth et il leur était soumis. La soumission des enfants aux parents doit être absolue. Elle est d'un autre ordre que la soumission de l'épouse à l'époux, parce que ce n'est pas la même chose. L'épouse est dans une situation stable, et parce que c'est l'épouse de l'époux, et les enfants sont dans une situation de minorité. C'est-à-dire que ce sont des adultes, enfin ce ne sont pas encore des adultes. Ce sont des êtres imparfaits qui ont besoin d'être soumis afin de pouvoir devenir adultes et de pouvoir devenir normaux. C'est pour cela que les enfants, malheureusement, qui n'obéissent pas à leurs parents, qui ne leur sont pas soumis de la bonne manière, eh bien, dans le monde, eh bien, finissent par être finalement de sorte de grands enfants ou de faux adultes. Vous voyez, c'est un peu la plaie d'aujourd'hui. Léon XIII dit aux enfants, et écoutez bien les enfants, il dit qu'il vous faut admirer, vénérer et imiter l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants doivent donc avoir une dévotion toute particulière pour notre Seigneur Jésus-Christ enfant. Ce n'est pas forcément la chose la plus facile pour un enfant que d'être dévot de l'enfant Jésus. Il ne doit pas l'être d'une façon ridicule et ses parents ne doivent pas s'imaginer qu'il n'y a que l'enfant Jésus pour les enfants, etc. Et c'est aussi le Christ adulte, bien entendu. Néanmoins, vous voyez, l'enfant doit apprendre à obéir à ses parents, comme notre Seigneur, tout Dieu qu'il fut, obéit à ses parents. Ils ne sont pas Dieu, donc ils doivent d'autant plus obéir à leurs parents. Donc nous avons vu l'ordre, la hiérarchie, ce sont des choses qui vont avec, qui vont ensemble. L'ordre, c'est la structure des choses telle que Dieu la veut. La hiérarchie, c'est la manifestation de cette structure et c'est le cadre dans lequel cette structure, l'ordre des choses, peut parvenir à faire se sanctifier les créatures qui lui sont soumises et qui s'y insèrent. Mais on ne le peut que par la charité, évidemment. C'est notre dernier point. Dans la secrète, il est dit ceci, c'est une secrète très belle. « En vous offrant cet hostie de propitiation, nous vous supplions, Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge, Mère et du bienheureux Joseph, d'établir nos familles dans la paix et la ferme possession de votre grâce. » Familias nostras in pace et gratia tua firmiter constituas, que vous constituiez, que vous établiez nos familles dans la paix, fermement dans la paix et votre grâce. La paix, nous disent les théologiens, c'est la tranquillité de l'ordre. La loi sur le divorce, qui n'est pas nouvelle malheureusement, mais qui est le premier et le grand attentat contre l'ordre des choses que la société moderne a commis, eh bien la loi sur le divorce accentue la différence entre les chrétiens et les impies. La différence entre les chrétiens et les impies, c'est que ce n'est pas que chez les chrétiens on ne divorce pas et que chez les impies on divorce. J'espère que c'est le cas. Mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est la différence de motivation. La charité est la raison pour l'amour de Dieu est la raison pour laquelle les chrétiens ne divorcent pas alors qu'ils le pourraient selon la loi. Ils ne le peuvent pas dans l'absolu. C'est-à-dire qu'un chrétien et une chrétienne qui divorcent sont toujours mariés. Quoi qu'ils fassent, ils sont toujours mariés. Le problème, c'est que deux païens qui sont mariés peuvent ne pas divorcer pour diverses raisons, et c'est louable. Mais si un chrétien et une chrétienne ne divorceront jamais, c'est pour l'amour de Dieu. J'espère aussi que c'est pour l'amour de l'un de l'autre, parce qu'ils sont heureux ensemble, mais il se peut aussi que ça soit, simplement pour l'amour de Dieu, et de toute façon, ils resteraient ensemble en s'aimant l'un l'autre pour l'amour de Dieu. Donc, qu'ils restent ensemble ou qu'ils refusent de ne plus être ensemble, c'est pour l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est la grande différence entre les impies et les chrétiens, entre les foyers chrétiens et les foyers impies, c'est que les époux s'aiment en Dieu, dans les uns, et ils s'aiment selon leur fantaisie dans les autres. C'est pour cela qu'ils finissent par divorcer, souvent. C'est une grande différence, c'est une différence capitale, c'est la charité qui fait tout. Et c'est pour cela que nous avons dit que dans un foyer normal, mais impie, il ne peut pas y avoir de vrai bonheur. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu est la racine du bonheur. L'amour de Dieu pratiqué dans le cadre de la hiérarchie, car il ne peut pas y avoir d'amour de Dieu en dehors du cadre de la hiérarchie, hein, cela dit. Un homme et une femme qui vivent en état de concubinage, même s'ils sont catholiques, même s'ils font profession de s'aimer en Dieu, ne peuvent pas s'aimer en Dieu puisqu'ils sont en dehors de la hiérarchie et de l'ordre des choses. Donc, il n'y a que la hiérarchie qui fait que on peut véritablement aimer Dieu et donc aimer son prochain, et son prochain en particulier, son prochain proche, qui est le mari pour la femme pour le mari. C'est elle qui non seulement rend la hiérarchie supportable, et c'est être bien mondain que de parler comme cela, mais enfin, c'est vrai que parfois, la hiérarchie peut avoir un aspect insupportable lorsque l'un ou l'autre des époux n'assume pas son rôle. C'est cela, c'est la charité qui nous rend non seulement la hiérarchie supportable, mais bien plus, qui lui fait atteindre son but, c'est-à-dire la fermeté dans la grâce. Constituer nos familles, dit la liturgie, fermement dans votre paix et dans votre grâce. Si la paix est là, si la tranquillité de l'ordre est là, si chacun se conforme strictement, sans jamais prendre de liberté avec l'ordre et avec la hiérarchie, alors véritablement la grâce sera là, et elle sera là d'une façon ferme, d'une façon forte, d'une façon inébranlable. L'Épître demanderait à elle seule tout un commentaire, je me contenterai simplement de lire le début de l'Épître, de telle sorte que, gardant à l'esprit la hiérarchie familiale et la nécessité de vivre selon la charité, vous verrez que c'est une véritable clé, ce n'est pas la seule bien sûr, mais c'est une véritable clé que saint Paul donne pour le bon ordre de la famille et aussi son bonheur, et finalement son salut. « Revêtez-vous, dit-il, comme des élus de Dieu, c'est-à-dire en tant qu'élus de Dieu, saints et bien-aimés, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie, de patience. » Tout le monde pratique ses vertus en fonction de son état. Il y a certaines variantes, parce que tous ne font pas la même chose, mais tous pratiquent ces mêmes vertus. « Vous supportant les uns les autres, et vous pardonnant mutuellement si quelqu'un a sujet de plainte contre un autre. » Hélas, nous sommes humains, et bien souvent, la femme a des sujets de plainte par rapport à son mari, et le mari a bien souvent des sujets de se plaindre de sa femme. Eh bien, il nous faut nous supporter les uns les autres, au sens le plus plat du terme, pour l'amour de Dieu, et nous pardonner mutuellement, comme le Seigneur nous a pardonné, pardonnez-vous, vous aussi. Mais par-dessus tout, continue saint Paul, ayez la charité qui est le lien de la perfection. Dans un foyer impie, on peut se supporter. On peut même se pardonner si on s'aime vraiment très fort et que l'amour est plus fort que les petites offenses que l'on fait. Mais, vous voyez, le lien de la perfection, la charité, on ne le trouve que dans le foyer catholique. Pourquoi ? Parce que c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu et que Dieu y habite. Mais par-dessus tout cela, il y a la charité qui est le lien de la perfection et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, dans l'Église et dans la famille, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. voyez, soyez reconnaissants, c'est une insertion là de Saint Paul qui parle de la reconnaissance, la gratitude. Soyez reconnaissants, enfants, comme je l'ai dit, pour la grâce immense qui vous a été faite de naître dans une famille catholique. Soyez reconnaissante, épouse, d'être unie à un époux qui est catholique. Soyez reconnaissant, époux catholique, d'avoir trouvé une femme catholique, chose très rare aujourd'hui. Vous voyez, une vraie femme catholique et pas une sorte de crypto-féministe, antiféministe. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous abondamment, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'action de la grâce. Le foyer catholique doit être le lieu où la gloire de Dieu est sans cesse répétée, chantée, sur tous les tons. Donc si on ne parle pas de Dieu dans un foyer catholique, on en parlera nulle part ailleurs. Quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a bien un lieu où les laïcs peuvent, et c'est le seul lieu où ils peuvent se sanctifier et faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est bien le foyer catholique. Alors il faut tout faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, de telle sorte que tout ce qui ne peut pas se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ doit être banni du foyer catholique. C'est très simple. Et vous verrez alors que le foyer catholique, votre foyer, mes très chers frères et sœurs, deviendra véritablement, s'avérera véritablement être la maison du Seigneur, le temple de Dieu, rendant grâce par lui à Dieu le Père. En toute chose, la glorification de Dieu, de telle sorte que nous soyons véritablement les imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et qui nous a réconciliés avec son Père. Alors, mes très chers frères, souvenons-nous, ordre, hiérarchie, charité, voilà les trois réalités de la doctrine de la famille chrétienne. Que Dieu nous aide et bénisse nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.